par UBS.
Pour un son.
Pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
L'homme orchestre, c'est ainsi que le présentait, sans plaisanter, nous sommes à la fin des années 40, le premier article publié sur notre invité. Depuis, cet homme orchestra sa vie en se composant une carrière qu'il se façonna en multiples facettes. Une vie semblant en contenir une multitude, beaucoup se seraient contentés d'une seule d'entre elles. Acteur, metteur en scène de théâtre, réalisateur pour le cinéma, scénariste, dialoguiste, dramaturge, directeur de théâtre. Au cinéma, il a joué sous le regard de Sacha Guitry, Jules Dassin, Roger Vadim, Gérard Oury, entre autres, Christian Jacques, Julien Duvivier, Marguerite Duras, Claude Lelouch, Jean-Yann. Il se définit comme insoumis et rebelle par instinct. Il apparaît avant tout comme un créateur de liens entre le public et des auteurs, entre le public et des histoires. Au théâtre, il a donné vie aux mots de son ami Frédéric Dard, à ceux de Jean-Paul Sartre qu'il a connu. Il joua du Shakespeare, qu'il ne rencontra jamais, faut pas exagérer, il est pas si âgé que ça. Il joua du Federico Garcia Lorca ou du John Steinbeck. Il est aussi connu pour avoir monté des spectacles ressemblant parfois plus à des performances qu'à de simples représentations théâtrales. Notre-Dame de Paris, c'est lui. Les Misérables aussi, Jules César, Ben-Hur au Stade de France, ou Une femme nommée Marie à Lourdes. Gérard Philippe lui a dit un jour « Toi, tu as un regard qui existe ». Il est aussi une voix, reconnaissable instantanément. La voici pour une heure d'entretien, l'occasion de revenir à l'envi sur quelques-unes de ses vies.
Pour un oui,
oui.
Pour un oui, pour un son.
Pour un son.
Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Robert Hossein. Bonjour Robert Hossein.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Comme
Mais moi j'ai pas mangé de chocolat, contrairement à vous.
J'en ai mangé un que vous m'avez offert, mais même deux.
Ah,
mais
je
pour
vérifié.
Être honnête, je ne vais pas tellement mieux à cause du chocolat. Parce que j'irais beaucoup mieux si les autres allaient mieux. Parce que ça va pas très bien pour beaucoup de monde. Qui souffre, qui espère. Il est absolument nécessaire qu'il arrive quelque chose. Moi, je voudrais, vous allez me prendre pour un fou, je voudrais tenter de sauver la planète. C'est-à-dire qu'on est mal barré et je voudrais essayer de réconcilier les uns avec les autres ou qu'on prenne soin des uns des autres. Moi, pour moi, j'ai trois arguments. Une prise de conscience, l'espoir et le partage entre tout le monde, toutes les races, toutes les religions. Voilà.
Vous avez cette envie-là, mais vous pensez que c'est réalisable?
Je vais tenter de le réaliser à travers une énorme fresque qui concernera hommes, femmes, enfants, tout le monde.
On a envie d'en savoir un peu plus. Faut en dire davantage.
Non,
là.
Oui, bon... C'est à partir des évangiles, je voudrais poser cette question au ciel, à Dieu, au Christ. Es-tu encore parmi nous?
Vous doutez qu'ils sont encore parmi nous?
Je ne sais pas, puisque je lui demande et je l'invite à revenir parmi nous pour nous aider, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer actuellement, qui est assez effrayant.
Vous parlez de votre foi dans votre nouveau livre, Robert Hossein, paru chez Auprès de la Renaissance, dans la très jolie collection Chemin faisant. Ça s'appelle justement « Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu ».
Et je crois en Dieu parce que je crois en l'homme.
Ça marche dans les deux sens.
Oui.
C'est difficile pour vous de ne choisir qu'un métier. Je le disais en intro, vous avez fait un peu tout ce qu'on peut faire dans le spectacle,
pour
en tout cas au théâtre et au cinéma.
Ah bon, je pensais que vous alliez penser d'avant, c'est-à-dire pour essayer de gagner ma vie.
Non, je pensais quand même à votre carrière, quasiment 70 années de carrière, en tout cas ce sera le cas dans 22 ans.
Je remercie le ciel de m'avoir permis de pouvoir tenter de réaliser des choses, en entraînant le plus de monde possible, dont énormément de jeunes.
On va vous faire écouter des sons au cours de cette émission, c'est le principe de Pour un oui, pour un son. Le premier va nous permettre de vous offrir, de nous offrir un retour sur une partie de votre filmographie, Robert Hossein.
Moteur.
De Monsieur de Montron, apporté par quelqu'un et que j'ai posé là.
Merci. Quelle est donc ce laquais ?
C'est le nouveau venu.
Il n'est pas mal portant. Ça ressemble au duc d'Orléans, mon ami.
Mais vous êtes un enfer !
C'est que je suis le diable !
Jacques Renard, lieutenant de la police judiciaire. J'enquête sur la disparition d'un homme. Et tout le monde m'empêche d'en savoir plus, moi aussi.
Ils vont faire une autopsie et contrôler l'ADN. Où est-il ?
Il n'y a que vous qui semblez savoir, vouloir savoir les choses.
Robert Hossein, responsable de cette 15e version des Misérables, ne laisse rien au hasard. Décor, costumes, maquillage apporte une vérité qui permet aux comédiens de complètement s'intégrer dans l'univers de Victor Hugo.
Deux de mes hommes m'ont suivi pendant quelques jours.
Vous ne me demandez pas mon avis ?
Mon avis, je m'en branle.
Si je refuse ?
Si tu refuses d'avoir un accident. Un accident d'ascenseur, par exemple. La crémaillère qui pète. Et on te retrouve 6 étages plus bas avec tes talons aiguilles dans la bouche.
Coupez !
C'est la même façon.
Est-ce que vous avez tous à avoir si peur ?
Il s'agit d'un meurtre. Ça s'est passé sous votre toit, maître.
Je sais que tu ne dis pas tout.
Vous sortez seul.
Mais qui ? Un peu de flair, 2 sous de camberge. Va savoir.
Vous voulez goûter ? Non, merci. Vous n'avez plus faim ? Ce n'est pas moi qui vous ai coupé l'appétit.
Mais si.
J'ai tranquillement assis en train de manger un bout de viande grillée. C'est ce que je vous reproche, monsieur Azat. Vous vouliez manger tout seul. Eh bien, je m'en vais respecter votre solitude. Alors à demain, avant 5 heures. Tenez. On réfléchit mieux avec un bon cigare.
Tu vois, Manuel, ce qui t'est arrivé là, ça peut pas arriver chez les Béthune. Et tu sais pourquoi ? Parce que nous, on est une famille, unie, comme les 5 doigts de la main à Hanchetan.
Tu me fais rire, Béthune. On m'a dit que t'étais naïf et rusé. Et moi, je pense que t'es naïf et con.
Accompagné par Henri Vidal et Reggiani, Robert Hossein et Marina Vladi ont tenu à revoir les coins de Marseille où ils se sont connus.
Coupé !
Mon chien !
Il s'appelait comment votre chien ?
Mon chien ?
Mon chien, mon chien, mon chien. Il y a un nom, c'est pas un nom de chien, mon chien.
Eh ben, on va le retrouver, votre chien, hein ?
Et vous ? Où en êtes-vous ?
J'ai tout perdu.
Revenons pour conclure sur Robert Hossein, dont le métier est déjà certain et dont on attend le prochain film avec un vif intérêt.
Coupé est formidable pour moi.
On a écouté un extrait du film Le Boiteux de Sacha Guitry, Angélique bien sûr, La Disparue de Deauville de Sophie Marceau, un son sur le tournage des Misérables, Le Professionnel et L'Inconnu dans la maison de Georges Lautner, bonne annonce de votre film Le Caviar Rouge, Le Casse d'Henri Verneuil, Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, la présentation du film Les Salauds vont en enfer de vous, Un homme et son chien de Francis Huster et tout ça sur des musiques composées par votre père pour certains de vos films, entre autres La Mort d'un Tueur, Le Vampire de Düsseldorf, Toi le Venin ou encore Une Corde, un Colt. Votre père était compositeur de musique, grand amateur de jazz, improvisateur de talent aussi. Il a travaillé bien sûr beaucoup pour vos films, et pas seulement, pour Train d'Enfer de Gilles Grangier, pour Un été 42, plusieurs thèmes pour ce film de Robert Mulligan. Vous en parlez dans votre livre de votre père, vous dites que c'était un homme taciturne et pudique. Comment s'est passée la collaboration professionnelle avec lui?
Remarquable, puisqu'il avait une telle inspiration. Il a été prodigieux, car sa musique a une âme et beaucoup de cœur. Il avait écrit des symphonies, des concertos, des ballets, des mélodies merveilleuses, des musiques de films. Et je me suis toujours inspiré et je voyais, évoquais des images en écoutant sa musique.
De votre mère, vous dites, elle était passionnée et enthousiaste, elle était comédienne. Est-ce qu'elle a été fière lorsque vous êtes devenu vous-même comédien?
Je ne sais pas, vous savez, je vais vous dire la vérité, ma mère, j'avais une admiration folle pour elle. J'avais vu dans un film qui s'appelait Sœurs d'armes, où elle était la directrice de la prison, et elle était émouvante et remarquable. Ensuite, mon père et ma mère ont été des exemples sur un plan humain tout à fait remarquable, mais nous avons quand même vécu, il faut dire la vérité, dans des grosses difficultés matérielles. Moi, aujourd'hui, je fais la manche, mais la manche pour essayer de parvenir à monter les spectacles qu'on a en espoir et en rêve. Et à l'époque, nous habitions rue de Vaugirard. Nous allions
à Paris
prendre l'eau. Oui, j'allais à l'école communale. On était au jardin du Luxembourg, à côté du théâtre de l'Odéon. Cette rue de Vaugirard qui donnait sur le boulevard Saint-Michel. Nous prenions l'eau sur le palier et nous allions pisser au second étage. Parce que nous n'avions pas les moyens. Nous n'étions pas riches, mais nous étions riches de 1000 inspirations de mon père. Donc, si vous voulez, j'ai passé ma jeunesse comme dans un rêve. J'étais à l'école communale qui était juste située en bas de la rue de Vaugirard. À mon certificat d'études primaires que j'ai obtenu, mais à 14 ans seulement, je suis allé, me suis aventuré pour essayer de gagner ma vie à Saint-Germain-des-Prés, qui était la grande époque, à l'époque de Sartre.
De Boris Vian.
Hein?
De Boris Vian aussi, que vous avez connu.
Vous présentez Boris Vian, que j'ai beaucoup connu et beaucoup aimé.
Vous êtes nostalgique de cette époque? Vous
pensez totalement.
Vous pensez beaucoup au passé aujourd'hui encore?
Mais écoutez, on n'est jamais débarrassé de son enfance, non?
On va vous écouter en musique maintenant, avec la chanson d'Hélène. Vous êtes en duo avec Liane Folly. Ça a été enregistré bien sûr initialement par Romy Schneider et Michel Piccoli. C'était pour le film de Claude Sautet, Les choses de la vie.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. Là, comme une dédicace dans le ciel.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
Comme dans un désert.
C'est mieux ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène.
L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fait le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus.
Bonjour, c'est Robert Hossein. Pour un oui, pour un son.
Robert Hossein est l'invité de Pour un oui, pour un son aujourd'hui, à l'occasion entre autres de la sortie du livre « Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu », autobiographie, enfin pour être plus précis, il s'agit d'entretien que vous avez, d'un dialogue que vous avez échangé avec François Venn, que l'on retrouve retranscrit dans ce livre. Vous racontez votre enfance, vous parlez de votre carrière, entre autres vous parlez de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, vous étiez adolescent et vous dites « Chaque fois que possible, j'allais au théâtre pour échapper à l'absurde. Je dévorais aussi des films au cinéma en entrant par la sortie de secours en fraude. C'était un moyen de se soigner de la réalité, d'aller comme ça se plonger dans des fictions au théâtre et au cinéma.
Oui, c'était un peu comme, j'évoque, comme l'espoir. Car cette époque terriblement nostalgique, dans le sens où la solitude joue un rôle énorme. Et le meilleur moyen de s'évader, c'est d'aller justement dans un théâtre ou surtout dans des cinémas pour voir des films qui vous permettaient de vous évader, de rêver et de...
De voir le monde autrement que ce qu'il était dans la réalité, alors.
Mais je ne me suis jamais fait d'illusions. Le monde même imaginaire n'était pas d'un abord facile. Du moins celui auquel j'étais attiré.
C'est-à-dire ?
Parce que j'ai toujours pensé que je me suis soucié beaucoup de la condition des autres, de mes camarades.
Professionnellement ?
Pas seulement professionnellement, à tous les points de vue. Sur des rapports humains, sur... Je me suis mis beaucoup à la disposition des autres parce qu'ils m'ont aussi beaucoup aidé. Vraiment. Et... J'ai des souvenirs comme ça. J'étais aussi dans des pensions mixtes.
Ah, vous dites ça avec le sourire. Je précise, on a la radio. Il y a un très grand sourire au moment de mixte.
Oui, parce que...
Parce qu'il y a des sacrés souvenirs qui reviennent.
Quand on n'a pas de pognon, et qu'on n'a pas un rond, et qu'on n'a pas de quoi vivre, et des fois même de bouffer, eh bien, il est très important d'avoir des relations entre les camarades, l'amitié, l'amour, les sentiments pour pallier au manque du reste.
À la Libération, vous écrivez « J'étais devenu adulte » et vous suivez des cours, les cours de René Simon, qui d'ailleurs vous décide de vous offrir la gratuité de ces cours. Mais pour quelle raison donc ? Alors bien sûr, vous n'aviez pas d'argent, mais
non,
vous vous amusiez à faire croire...
Non, moi parce que il m'a fait confiance... Et il me donnait l'espoir de penser que je pourrais un jour gagner ma vie.
Dans votre livre, vous racontez que c'est parce que vous faisiez croire aux jeunes filles apprenties comédiennes que vous étiez le prof, comme ça elles vous donnaient de l'argent. À un moment, il s'en est rendu compte, il a dit
oui,
bon.
Oui, j'ai fait amant, je vous dis souvent, et je continue même aujourd'hui, lorsque je veux faire des grands, grands spectacles. Mais...
C'est pas faire la manche, c'est chercher des financements.
Non, aujourd'hui, ça devient un peu... une forme de manche. Parce que si on veut réussir à réaliser avec le plus de monde possible, eh bien, il faut tendre la main.
Et d'avoir pas honte de le faire.
D'ailleurs, vous parlez aussi d'argent dans votre livre. Vous dites à un moment, vous avez une immense carrière au cinéma qui a débuté à la fin des années 40. Vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs. Et quelques années plus tard, vous direz de cette époque, c'était un moyen de gagner de l'argent pour m'offrir en effet tout ce dont j'avais tant manqué.
Oui, bon, je
sais pas. Mais c'était pas que ça quand même le cinéma, même si vous avez certainement dû gagner beaucoup d'argent avec tous les succès.
J'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu beaucoup.
Perdu, dépensé? Investi.
Non, dépensé, investi, mais écoutez, Dieu m'a permis une chose, c'est que je suis, bon, j'y crois, c'est que on a le sentiment d'avoir de l'argent que lorsqu'on le partage. Sinon, j'allais dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Si le Dieu veut qu'on puisse tout à coup avoir quelque chose, on ressent un sentiment extraordinaire d'émotion, oui, mais aussi de joie, de pouvoir le partager avec d'autres qui n'en ont pas. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en avaient et qui m'en ont donné et qui m'ont aidé aussi.
Robert Hossein, vous avez connu énormément d'artistes dans votre carrière. L'un d'entre eux a eu un rôle déterminant dans votre vie. Il est devenu, vous le dites, votre frangin. C'est Frédéric Dard.
Frédéric Dard, 1921-2000. Une vie, une œuvre vous invite aujourd'hui à la rencontre de celui qui se présentait comme le plus paisible des tourmentés, le plus suave des violents, le plus joyeux des ravagés. Frédéric Dard, alias San Antonio. Ce fils de chauffagiste, un brin revanchard et fils indigne du roman noir américain qui y vécut bien à son aise dans un costume de clown.
Je comprends pas que certains auteurs soient jaloux de leur créature. Moi, quand je vois que cette année, par exemple, San Antonio est entré dans le Larousse, ben je suis heureux, je biche, c'est mon enfant. Un père est heureux quand son fils réussit. Ben, j'ai fait un grand garçon qui se défend bien, ben je suis satisfait, quoi. On se dit, bon, ben la suite est assurée. Hey, 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 ce policier français, hey, 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 c'est du qui sait, c'est Chana.
Monsieur le Président,
c'est un triste jour pour la France.
Le Président de la République a disparu.
San Antonio, mais qu'est-ce que vous ici?
J'enquête à titre privé.
Moi aussi, à titre officiel.
Mais c'est pas le tout d'avoir pris du galon, bon. Encore faut-il savoir penser le costard.
Vous pensez que mon père est toujours en vie?
J'ai la faiblesse de le croire, oui.
Quand on est heureux, on s'ennuie. Mais c'est ça le signe du bonheur, c'est qu'on s'emmerde. Vous comprenez, c'est les ennuis qui vous tiennent compagnie.
Il écrivait 25 feuillets par jour. Bon, c'était une production énorme.
C'était une sorte d'haltérophile de l'écriture, moi je le voyais comme ça. C'est-à-dire, il était tenu par contrat d'écrire je ne sais combien de San Antonio par an. Donc c'était un forçat, voilà. C'était pas un forçat de la route, mais c'était un forçat de la page.
En 1966, tu as voulu quitter donc ta première femme et en même temps tu étais très attaché à elle, mais tu ne pouvais plus vivre avec elle, enfin, c'est très compliqué. Oui. Tu as voulu te foutre en l'air.
Oui.
Tu as voulu te pendre.
Oui. Enfin, je n'ai pas voulu, je l'ai fait.
Ouais. Oui.
Puis je me suis farci 12 heures de coma, c'est pas...
Ça s'est passé comment?
Tu sais, c'est très con. D'abord, il faut te dire que j'ai épicolé comme...
Ouais. Ah oui, d'accord.
Comme un polac, hein, ouais. Parce que c'était de la vodka qu'il s'agissait. Donc, tu vois,
l'expression est bien choisie.
J'avais beaucoup bu, ouais, et ouais. Puis, je sais pas, j'avais l'impression que je ne pourrais pas regarder le jour se lever, que c'était, ouais. Tu vois, que c'était fermé, là, que c'est la porte était, qu'une porte était fermée à tout jamais, ouais. Et que c'était de la seule issue.
On
a parfaitement le droit, et encore ce n'est pas tout à fait certain, de ne pas aimer les romans de Frédéric Dard, ces centaines de titres qui sont loin d'être tous signés San Antonio.
Je crois que ma plus grande perversion, c'est d'écrire, parce que j'écris sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, je me saoule d'écriture, je m'abrutis d'écriture, j'ai besoin, quand j'ai fini d'écrire, je sors un moment, quelquefois je veux prendre une douche, je suis groggy, quoi. Je suis un monstre d'écriture, alors je crois que ça équivaut presque à une perversion.
Frédéric Dard à l'Académie française, des bords du Léman où il réside, à la Coupole, moi je voterai pour.
Hommage à Frédéric Dard avec un extrait de l'émission française de France Culture, Une vie, une œuvre. On a entendu la voix de Frédéric Dard, une chanson inoubliable, une trouvaille d'Alexandre Lemierre, San Antonio ne pense qu'à ça, par Robert Carpentier. Et puis l'extrait du film San Antonio dans lequel vous avez joué, Robert Hossein, aux côtés de Gérard Depardieu et Gérard Lanvin. Le film de Frédéric Auburtin et puis différents témoignages sur Frédéric Dard, mixés sur des musiques de votre père. Dans votre livre, vous dites « Sans lui, je ne serais pas devenu qui je suis, c'était mon frangin, le consolateur, l'ami de tous les coups durs. » On l'a entendu, lui disait de lui, c'est le plus paisible des tourmentés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Frédéric Dard, ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait, je l'ai. Mais je continue à l'aimer, je l'ai aimé beaucoup, beaucoup. J'allais tous les dimanches à la campagne, chez lui, où il habitait, dans la banlieue de Paris, les Mureaux. Et il me recevait, il allait me chercher à la gare. Je passais des week-ends magnifiques. Il incitait les rêves. Il avait une imagination. Il avait une inspiration extraordinaire. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. On l'a joué au Grand Guignol, ensuite au cinéma, ensuite... Voilà. Il a écrit aussi des bouquins qui ne sont rien à voir avec San Antonio. Des romans très, très passionnants.
Dans votre livre, vous racontez un moment important de votre vie. Vous faites une grande carrière au cinéma. C'est l'époque du film Le Casse avec Belmondo. Et là, vous décidez de prendre la direction de Reims et du théâtre, oui. Surtout de Reims.
Oui, oui. C'est-à-dire, non, de la Maison de la Culture de Reims. J'y suis resté, je crois.
7 ans.
4 ans.
7.
7 ans, oui. Mais non, à un moment donné, j'ai voulu quitter tout. Recommencer, renaître, réfléchir. Ne pas me prendre au sérieux, donc repartir à zéro. Et je l'ai fait, et j'ai ouvert une école aussi, j'ai pris beaucoup de jeunes, j'ai monté beaucoup de spectacles, et je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, si je pouvais, après tant d'années, revenir à Reims pour la première de mon prochain spectacle, en souvenir des années que j'y ai passées, je le ferai volontiers. Mais là, il faut les moyens, parce qu'il faut loger et nourrir. Hein, et tout le monde, et même moi, 300 personnes, car je montais modestement des spectacles de 10-15 acteurs. Aujourd'hui, je suis obsédé par l'idée d'en avoir 300, 400, 500, 1000, si je pouvais. Mais, et je l'ai fait, d'ailleurs, quand je suis allé dans les stades de France, même à Reims, la Maison de la Culture. Enfin, 1000 choses, avec beaucoup d'autres camarades, vous savez, les techniciens, les comédiens, tout ça. Je travaille beaucoup en équipe.
C'est important l'humain, on l'entend bien depuis tout à l'heure. L'échange humain, le partage.
Oui.
Et l'esprit d'équipe. Parmi vos élèves, il y avait une jeune fille qui était en train de passer son bac, à l'époque. Une certaine Isabelle Adjani.
Ah oui, oui, oui.
À Reims.
Oui, oui, j'étais ravi. Et c'est la première fois qu'elle a joué La Maison de Bernarda de Lorca. Oh, elle était remarquable, émouvante. Oui, oui, et nous sommes restés en très bons termes.
Vous parlez du théâtre ainsi. Au théâtre, c'est comme si l'acteur faisait descendre le divin sur scène parce qu'il suscite un souffle de vérité dans l'âme du spectateur. L'acteur ne résout rien, mais les questions qu'il invite à se poser peuvent changer la vie. Plus qu'au cinéma, vous pensez?
Beaucoup plus. Non, non. Au cinéma, on écoute... On est touché, attiré, mais au théâtre, le fait d'être vivant.
Dans la vraie vie.
Oui, dans la vraie vie. Non, non, ça ne veut pas dire que ça n'entre rien à la vérité ou à l'imagination ou à la sensibilité d'un film. Mais au théâtre, on est là. en chair et en os vivant, et nous allons vers les autres. C'est très important, même j'adore aussi que les choses se passent aussi dans la salle, ou que les gens qui sont dans la salle viennent aussi exister sur scène.
On va écouter Benjamin Biolay avec Miss Miss, c'est un extrait de son nouvel album Palermo Hollywood sur la première.
On a le sentiment d'avoir de l'argent que lorsqu'on le partage. Sinon, j'allais dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Si le Dieu veut qu'on puisse tout à coup avoir quelque chose, on ressent un sentiment extraordinaire d'émotion, oui, mais aussi de joie de pouvoir le partager avec d'autres qui n'en ont pas. Pour un oui, pour un son.
Robert Hossein est l'invité de Pour un oui, pour un son. Vous parlez de votre foi dans le livre qui a guidé d'ailleurs des choix de nombreux de vos spectacles. Un homme nommé Jésus, c'était en 83. Il y a eu 700 000 personnes qui sont venues assister à ce spectacle. Il y a eu Jésus était son nom, Jésus la résurrection. Il y a eu N'ayez pas peur sur Jean-Paul II, une femme nommée Marie qui a été jouée à Lourdes et diffusée en France sur la chaîne publique, sur France Télévisions. Vous dites, ma façon à moi de communier, justement, c'est de réaliser des grands spectacles qui font rêver et aident à vivre avec le quotidien. Et pourtant, vous vous êtes fait baptiser très tard, je crois, au seuil de la cinquantaine.
Ah, oui, par rapport, oui. Mais écoutez, je vais être franc avec vous, comme...
J'aime autant.
Mes parents n'avaient pas grand-chose. J'ai passé ma vie en pension. Et quand vous parlez de baptême, c'était pas ma préoccupation première, ni celle de mes parents. Ils me disaient, bon, il fera son choix, je ferai mon choix, etc. J'ai fait un choix, parce que j'ai été beaucoup dans les églises et les pensionnats russes, orthodoxes. Et comme je parlais russe, vous m'obligez à me souvenir et à ressentir d'immenses nostalgies. Je pense à ça. J'allais à l'église, je connais la messe par cœur, les chœurs, dans tous ces pensionnats qui étaient des pensionnats russes souvent. J'ai fait un choix. J'ai signé, c'est très curieux, vous m'obligez à réfléchir, et j'ai signé et j'ai fait mes choix. D'habitude, lorsque je signe un contrat, je me mets au travail. Là, je m'étais mis au travail pendant tellement de temps, sans résultat, que, avec la foi, je me suis dit, bon, ben, on a le temps, je vais réfléchir. Mais maintenant que je suis gâteux, j'ai l'espoir de pouvoir tenter une dernière chose pour partager avec les autres et tenter de redonner de l'espoir suffisamment pour qu'on tout à coup on puisse faire quelque chose en couleur, en musique, en poème. En fait, c'est une histoire d'amour, la vie. On n'est que de passage. Et ça devrait nous réconforter et non pas nous inquiéter. Puisque de toute façon, une seule chose que je sais, c'est qu'on n'est jamais débarrassé de son enfance. Et je ne suis pas encore débarrassé de la mienne. Voilà.
Et c'est un problème, ça ?
On n'est jamais débarrassé de son enfance.
Et vous aimeriez l'être ?
Non, pas du tout.
Ah.
C'est ce qui me permet d'être inspiré de temps en temps. C'est les souvenirs.
C'est moteur.
Hein?
C'est moteur.
Ah bah, heureusement.
Votre livre s'appelle Robert Hossein, Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu. Voici oui. Ce que pourrait être la bande sonore de votre livre.
Oh, cher Pépé, voici un cambriolage qui vous honore.
Quand on tuera Pépé, il y aura 3000 veuves à son enterrement.
Il n'y a qu'un moyen d'arrêter Pépé. C'est de le faire descendre en ville.
Un pas dehors, il n'y a plus de Pépé. Descendu le Pépé.
Chez une amie. 12 rue de la Brogoire.
J'ai vécu seul. Sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux.
T'as pas faim ?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai ? T'es bien avec moi ?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir.
Et
alors ils se sont souvenus qu'ils étaient tous, ils étaient six là, ils se sont souvenus qu'ils étaient tous d'origine écossaise, lointainement écossaise. Alors il y a des clans en Écosse. Clux, Clux, clan. Avec un C, ben non, puisqu'on a déjà mis un K à Kuklos, il y aura Clux avec un K, on va mettre un K à clan. Voilà comment est né le Ku Klux Klan.
Ouais. Ce qu'on découvre aussi dans ce livre, Daniel Gélin, et que peu de gens savent, c'est que Maria Schneider est votre fille. Et ça, vous en parlez aussi.
J'ai voulu mettre les choses au point. J'ai voulu, par conséquent, raconter Maria, comment je l'avais retrouvée, comment un jour elle a débarqué à la maison, parce qu'elle avait envie de me connaître, et comment pendant des années, nous nous sommes revus, et nous avons vécu une idylle étonnante de père et fille. Elle avait besoin de me revoir, de me connaître, etc. C'était un devoir que je devais accomplir, c'était un besoin qu'elle avait à recevoir.
Je dis souvent à Marguerite quand elle m'explique, parce qu'en plus elle vous donne des explications extraordinaires. C'est toujours, vous dites un mot et vous dites une phrase, vous dites tiens, ben ça je dois dire, c'était merveilleux mais pas nécessaire. Alors vous le dites exactement, c'était merveilleux mais c'est pas nécessaire. Elle dit attention, le mot merveilleux ne veut pas dire merveilleux et nécessaire ne veut pas dire nécessaire obligatoirement. Et peut-être que nécessaire veut dire merveilleux et merveilleux. Et les choses derrière les choses. Quand je vois un homme qui nage, je peins un noyer. Je dis ça.
Dessine-moi un mouton.
Couleur, divisé couleur, air. Ça veut dire, c'est la première fois qu'un artiste pensait, regarde le paysage et regarde comment l'air, quelle gamme couleur de l'air. Pas de, par exemple, arbre vert, comme nous vit toutes les choses. Expressionnisme, comme Renoir, comme Sisley, ou comme...
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Même si j'ai tort, laissez-le moi encore.
Ce que l'on a entendu, ça figure dans votre livre « Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu ». On a entendu un extrait de Pépé le Moko, le film du Vivier. Le Petit Prince, bien sûr, par Gérard Philippe. Cette lecture m'a bouleversé. Vous dites, j'aurais tant voulu qu'on m'apprivoise, qu'on m'écoute. On a entendu Edith Piaf avec Mon Dieu, qui est venu vous voir, alors que vous étiez tout jeune comédien au théâtre, Edith Piaf. On a écouté un extrait de Quai des Brumes, bien sûr, de Marcel Carnet. Daniel Gélin, qui vous a hébergé vous étiez paumé.
Et comment, oui.
Le peintre Serge Poliakov, qui habitait le même hôtel que vous. Enfin, vous y travailliez.
Oui, exact.
En tant que gardien. Et puis Marguerite Duras,
oui,
qui vous
aussi.
Avez joué dans la Musica en 1967. Et elle disait de vous, Robert Hossein, c'est un don juan de bazar, un Casanova pour midinette.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que vous l'étiez.
Oui, je crois que je me suis resté.
Vous êtes un Casanova pour midinette.
Oui, mais c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire midinette? J'ai beaucoup de respect pour les midinettes et beaucoup d'amitié.
Mais l'image de don juan...
C'est-à-dire qu'il faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre trop au sérieux. Vous savez, on est tout de même de passage. Si on était éternel, je m'organiserais peut-être d'une manière différente. Oui, c'est-à-dire que je travaillerais moins.
Vous parlez de votre foi, c'est d'ailleurs le fil conducteur de votre livre. À un moment, vous dites, j'affirme que construire un monde de justice sans la foi est impossible.
C'est vrai.
Point de justice pour les athées?
Non, mais écoutez, construire un monde sans justice... Ça signifie rien, c'est comme si on construisait rien. Je crois que ce qui est important, c'est avoir le sentiment de réussir de construire un monde parce que tout à coup les autres réagissent dans un sens qui vous enchante. C'est l'espoir.
Est-ce que c'est forcément une foi religieuse?
Non, pas obligatoirement.
Donc c'est une volonté.
Mais pourquoi
c'est un
dites-vous
désir.
Ça?
Parce que
je connais des gens
Dieu
qui ne sont pas
vie.
Croyants et qui sont tout près de Dieu, enfin.
Les athées sont près de Dieu.
Mais pourquoi? Parce que on ne dit pas, c'est parce que tu crois en moi que tu existes. On dit simplement parce que c'est plus facile d'exister si on croit en quelque chose, ou du moins qu'on espère en quelque chose. Il faut bien dire que dans le monde où on vit aujourd'hui et en ce moment,
vous êtes très en forme.
Bah là, non, mais là vous m'obligez à me réveiller.
Tant
alors,
mieux.
Là, j'étais. Non, mais. C'est de votre faute, vous avez une fenêtre en face, il y a un arbre avec des branches qui se dressent vers le ciel comme quelque chose de magnifique. Alors, ça me touche et et je m'exalte un peu.
Au détour d'une phrase, vous vous positionnez contre l'euthanasie dans votre livre.
Oui.
C'est votre foi qui vous guide dans cette réflexion ?
Oh non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire contre l'euthanasie ? Si tu veux quitter la planète, il y a peut-être quelqu'un qui t'attend au moment où tu la quittes. Mais pourquoi continuer à vivre et espérer vivre si on est très malheureux et si on ne voit pas la manière de s'en sortir ? Et le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui, c'est de se réunir tous ensemble et qu'on se grouille même. Parce que sinon, on n'en a plus pour longtemps. Mon père disait toujours, quand j'avais 12 ans, « C'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras. Mais après, ça va mieux. » Et moi, je demandais, « Mais pourquoi ?»« Parce qu'on s'habitue, alors tu fais gaffe de ne pas t'habituer. » Ben voilà.
On se retrouve dans un instant, juste après l'infotrafic.
Infotrafic RTS.
Soyez attentifs si vous circulez sur l'autoroute Fribourg-Vevey car une roue a été perdue entre Châtel-Saint-Denis et l'échangeur de la Verre en direction de Vevey.
On va écouter ce que fait une artiste suisse tout de suite, Francesca Lago avec Out in the Blue, et on se retrouve juste après Robert Hossein.
Pour un oui, pour un son.
En fait, c'est une histoire d'amour, la vie. On n'est que de passage et ça devrait nous réconforter et non pas nous inquiéter.
Robert Hossein est l'invité aujourd'hui de Pour un oui, pour un son. et il invite tous les auditeurs à son prochain spectacle. C'est ce que vous me disiez à l'instant pendant la chanson. C'est un peu ça.
Oui.
Vous confiez? Là, je vous sens un petit peu moins à l'aise.
Non, c'est pas vrai, dites pas ça.
Je plaisante.
Seulement pas le premier soir.
Non, il y aura plus de place.
Oui. Ah, on pourra venir s'inscrire.
Non, vous disiez très gentiment, si lors de mon prochain spectacle, les gens se rappellent de cet entretien, ils peuvent venir, ils me parlent de cet entretien et je les inviterai. Bien sûr, s'ils n'ont pas les moyens de payer leur place, je les inviterai gentiment à assister au spectacle.
Oui. Parce que sans eux, le spectacle n'existerait pas. Et puisqu'il les concerne, ce que je veux faire, les autres, donc c'est logique aussi.
Dans votre livre, vous parlez de choses extrêmement profondes, vous parlez carrément du sens de la vie. À un moment, vous dites « Mon but demeure depuis toujours d'aider les gens à trouver le sentiment d'exister ». Vous, à quel moment vous l'avez trouvé et comment, ce sentiment d'exister ?
C'est uniquement à la seconde où vous pensez autre chose qu'à vous-même. C'est-à-dire aux autres, et ensuite, lorsque vous avez le sentiment que vous pouvez être utile à quelque chose qui les concerne, mais sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité au contraire. Mais ça, c'est peut-être le réflexe de l'âge, parce que quand il y a un jeune, je dis souvent à un jeune, qui a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, « Alors, tu sais ce que tu veux faire plus tard ?»« Ben, je sais pas. » Ah, et toi, ah, moi je sais, eh ben t'as raison, je te dis en progrès, parce que si tu sais ce que tu veux faire à ton âge, eh ben ça veut dire que tu y arriveras avant ceux qui ne le savent pas, voilà.
Mais c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire.
Non, on est attiré par quelque chose et on se bat pour le faire, pour devenir, pour vivre de ça, du métier qu'on a choisi. Ben c'est capital qu'on le sache, qu'on est très en vie. Très vite, dès qu'on se sent attiré, mais c'est capital parce que ça va fatalement plus vite puisqu'on se concentre sur ça. Mais cela dit, je ne juge pas les autres. Démerde-toi, le ciel t'est là.
Vous parlez de la mort à la fin de votre livre « Mourir ». Vous dites « Je ne crois pas qu'on meure, je crois qu'on passe à autre chose. » Ou mieux encore, « Je crois que nous continuons ce qu'on était en train de faire. » C'est du changement dans la continuité.
Oui, mais ça va, méfiez-vous les mecs, j'invente un peu.
Et profondément, vous pensez quoi ? En dehors de la formule écrite.
Eh ben, j'aime bien, souvent, ça va vous paraître insensé, je me rends dans les cimetières et je m'approche des tombes et je me souviens de l'existence de tel ou tel et tout, et qui me manque et qui me remplit d'une tristesse. Et je m'aperçois que ça vous évite de savoir que nous sommes de passage, de vous prendre trop au sérieux. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut essayer de faire quelque chose, de bâtir quelque chose. C'est le sens d'un couple avec des enfants. J'ai énormément de respect aussi pour la nature, que j'aime à la folie, et les animaux. Et comme Tchekhov, m'asseoir au bord d'un fleuve ou dans la forêt, près de la mer, et regarder couler la vie, le temps.
Merci beaucoup pour cet entretien, Amber Hossein. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous de m'avoir
à faire des chocolats, deux chocolats.
C'est vrai.
Je crois qu'il y en a eu plus au cours de l'émission. Trois, on en est à trois.
Invité, et je répète que si Dieu m'aide à monter ce que je souhaite, ceux qui auront vraiment envie de le voir vont comme demander et me rappeler que je l'ai dit chez vous.
sur la première dans Pour un oui, pour un son. Je rappelle que votre livre s'appelle Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu, aux presses de la Renaissance. Trois questions pour terminer que l'on pose à chacun de nos invités. À quelle question répondez-vous toujours oui, Robert Hossein?
Ah bah quand il y a un bon gueuleton.
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui?
Quand je t'appelle, je fais la manche et que je cherche les moyens de monter un spectacle.
Et enfin, quel est votre son préféré?
Le son, le rire d'un enfant.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Pour un oui, pour un son. À la réalisation et au montage sonore, c'était Alexandre Lemierre. François Piton a signé la programmation musicale de cette émission. Très bon week-end à l'écoute des programmes de la première et on se retrouve samedi prochain à partir de 14h. Nous serons en compagnie d'Emeric Caron.